Tous les jours à 12h15 et 19h15, Je vous dis pas, votre magazine d'information locale.
Vendredi, je vous dis pas, bonjour. Aujourd'hui, une émission spéciale élection régionale avec deux candidats à découvrir. Pascal Gana, tête de liste du Front National, ainsi que Gilles Denigaud, tête de liste Choisir nos régions. Deux interviews réalisées par Anthony Torzec de la radio Fidélité Nantes.
Dans deux mois, jour pour jour, le premier tour des élections régionales. Nous continuons aujourd'hui notre série d'invités politiques, tête de liste pour ces régionales. Notre invité est Pascal Gana du Front National. Pascal Gana, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez 60 ans, entrepreneur au Mans, secrétaire départemental du Front National dans la Sarthe. Vous êtes entré au Front National en 1984, chef de cabinet de Jean-Marie Le Pen entre 1988 et 1992, conseiller régional et municipal dans le nord de la France. Je n'ai rien oublié dans le CV.
Non, c'est bon. Et père de 9 enfants, j'y tiens beaucoup aussi.
Et père de 9 enfants également. Nous allons avec vous, évidemment, dresser les priorités, vos priorités pour la région des Pays de la Loire. D'abord, parce que dans la région des Pays de la Loire, on ne le sait pas, contrairement au nord de la France. C'est quoi un conseiller régional du Front National ? Quelle est la différence entre un conseiller du Front National et un conseiller socialiste ou des Républicains ?
Je pense que pour la plupart d'entre nous sur la liste, nous ne sommes pas des professionnels de la politique, nous sommes issus de la société civile. D'autre part, nous allons faire un retour, puisque depuis 12 ans, il n'y avait pas d'élu Front National dans la région. Et enfin, je crois que c'est un élu qui ne se situe pas dans l'idée de l'alternance, mais d'une autre gouvernance. Nous aurons l'occasion d'en reparler, c'est-à-dire d'une autre manière d'envisager la gestion des affaires publiques.
Nous allons, si vous le voulez bien, voir les différentes compétences, les grandes compétences de la région. Commençons avec l'économie, l'emploi, l'aide aux entreprises. Quelles sont vos propositions dans ce domaine ?
Nous pensons, nous, qu'il y a beaucoup trop de saupoudrage. Il y a une centaine de dispositifs régionaux, il y a les dispositifs départementaux, il y a ceux de l'État. Et finalement, très peu d'entreprises y ont accès à cause de la complexité et particulièrement des dossiers. Et nous pensons, nous, qu'il faut axer l'aide de la région sur les PME, TPE, artisans, commerçants, car ce sont eux qui ont la plus forte capacité à créer de l'emploi. Et qui plus est, c'est un emploi qui n'est pas délocalisable, qui ne suit pas le poids de la mondialisation. Et nous pensons que dans les territoires, ces emplois-là sont le gage de la pérennité particulièrement de la ruralité ou des petites villes.
Alors concrètement, quelle aide précisément pour les PME, les artisans, les commerçants ?
Tout d'abord, il y a quelque chose de global qui est l'idée d'un label régional qui servirait d'indicateur aux consommateurs, y compris d'ailleurs pour ce qui est des services. Et puis, et je pense particulièrement, évidemment, à la production agricole. Donc, cette préférence régionale dans les commandes de la part des collectivités territoriales et qui donc influerait sur les consommateurs. Il y a une autre idée, c'est d'appliquer à la région ce qui se fait dans le monde de l'entreprise, à savoir le management des connaissances, de manière à pouvoir faciliter une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Et cela, c'est très important pour ce qui est de la formation et de la mise en place de filières de formation sur mesure. Car trop souvent, on a de grands dispositifs généraux dans lesquels c'est aux entreprises ou aux partenaires de s'inscrire, alors que nous pensons, nous, que c'est à la région plutôt de s'adapter aux besoins locaux et parfois très locaux et très partiels des entreprises.
Mais les entreprises recruteront, vous le savez, s'il y a des marchés, s'il y a une croissance, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ce sont des mesures qui ne serviront pas à grand-chose dans, en tout cas, cette économie que nous avons actuellement.
Mais de toute façon, il y a un cadre national. Il ne faut pas se faire d'illusions. Les régions ne feront pas de miracle. On va entendre beaucoup de discours comme quoi la région créera de l'emploi massivement. Nous pensons, nous, qu'on peut créer un climat favorable, mais que, au niveau national, le poids des charges, de la fiscalité, de la réglementation, des normes, le code du travail qui est à réformer, tout cela fait que, régionalement, une institution comme la nôtre, qui est une petite institution, 1,5 milliard de budget, alors que la région Flandre, c'est 28 ou 30 milliards. Donc, si vous voulez, il faut avoir conscience de cela lorsque l'on est en campagne électorale.
C'est peu de levier pour vous, la région des Pays de la Loire ?
C'est un levier, je pense que c'est un levier territorial, et d'où cette idée de réorienter l'aide régionale vers les artisans TPE, PME, parce que ce sont eux vraiment le poumon économique local de l'emploi, et nous pensons, nous, que la région doit évidemment favoriser tout ce qui aide ces petites entreprises dont on ne parle jamais dans les médias, mais qui sont fondamentales, hein, vous savez, c'est le premier employeur français.
Sur le thème des transports, avez-vous quelques propositions à faire aux Ligériens?
J'ai entendu M. Clergeot promettre la gratuité générale, je crois que c'était chez vous, dernièrement. Et il a redit, en tout cas, nous ne croyons pas qu'il soit sain dans une démocratie d'assurer la gratuité, enfin de promettre la gratuité générale des prestations. Nous pensons, en ce qui concerne les transports scolaires, qu'évidemment il y a une inégalité des territoires selon l'endroit où les familles se situent. Et donc, plutôt que la gratuité générale, nous préférerions des barèmes en fonction de critères sociaux, de telle sorte que personne ne soit dans la gratuité, mais qu'il y ait une sorte de des paiements graduels en fonction des revenus des familles et en fonction du nombre d'enfants aussi.
Le transport, c'est l'aérien également. Quelle est votre position sur Notre-Dame-des-Landes?
Nous sommes radicalement contre, car nous pensons que Nantes Atlantique, comme l'aéroport de Genève avec une seule piste, peut accueillir jusqu'à 12 ou 15 millions de voyageurs par an, de passagers, et que donc c'est une illusion que de penser, c'est un mensonge, que de penser qu'il est absolument indispensable et immédiat et urgent de créer un nouvel aéroport entre Rennes et Nantes.
Même si les élus locaux, mais également au niveau national, tout le monde a voté pour cet aéroport, il y a donc un consensus sur la question?
Ça ne serait pas la première fois qu'il y ait des consensus erronés. Hein. Vous savez, l'histoire est jalonnée de ce genre de décision. On a aussi eu un consensus sur le Minitel. On a mis bien plus que le coût d'un aéroport dans cette structure qui s'est révélée être complètement obsolète et très rapidement.
Pascal Gana, vous êtes la tête de liste du Front National sur la région des Pays de la Loire pour ces élections régionales. Le premier tour, c'est dans 2 mois. En termes d'éducation et notamment sur la question des lycées, puisque c'est le gros du budget sur ce budget régional, quelles sont vos propositions?
De toute façon, nous n'avons pas le choix. Il y a des lycées qui ont été construits. Il y en a quelques-uns qui restent à construire. C'est une lourde charge. Je pense que l'essentiel est fait. Ce qu'il faudrait, c'est...
Donc, pas de lycées supplémentaires publics.
Il y a certainement quelques lieux où c'est nécessaire, mais je pense moi particulièrement à l'enseignement privé, à l'enseignement dit catholique, sous contrat.
Dit catholique parce qu'il n'est pas, selon vous?
Si, mais on l'appelle, d'accord. Vous savez, en France, on a une espèce de confusion des mots sur enseignement privé, voilà. Catholique, etc., sous contrat.
Sur les Pays de la Loire, l'enseignement privé, c'est essentiellement l'enseignement catholique.
Ouais. C'est un énorme, c'est 40% des effectifs, hein, c'est notre région, avec un ou deux autres départements comme la Haute-Loire, sont vraiment, vraiment exceptionnels sous cet angle-là. Et je pense qu'il faudrait plus aider, particulièrement en ce qui concerne les bâtiments. La région, dans notre région, les locaux scolaires des établissements catholiques sont souvent bien en deçà de ceux du public, et nous trouvons anormal que des parents qui payent leurs impôts, donc pour les charges de l'État, doivent payer une deuxième fois lorsqu'ils inscrivent leurs enfants dans un établissement catholique.
Donc vous êtes d'accord avec Bruno Retailleau qui estime qu'il y a peu d'équité entre le public et privé actuellement sur la région des Pays de la Loire. Vous souhaitez plus d'équité entre les deux?
Absolument. Je pense que les socialistes ont été très malthusiens, pour ne pas dire plus. Je ne veux pas parler d'anticléricalisme, encore que pour certains à gauche, je crois que c'est quand même la vérité, c'est historique chez eux. Et donc, nous pensons qu'il faut aider massivement. Par exemple, l'équipement informatique des lycées, les CDI, enfin, la liaison avec les réseaux Internet, tout cela, dans beaucoup de collèges, de petits collèges particulièrement, est très en retard et en total décalage avec l'équivalent du public. Et c'est totalement anormal que des jeunes se trouvent discriminés uniquement parce que l'enseignement est catholique, tout simplement.
Et quelle serait votre action forte et très de communication qui montrerait le visage réellement d'une région Front National sur les Pays de la Loire? L'action essentielle, selon vous?
Il y en a deux, à mes yeux, qui sont très différentes. Ce serait tout d'abord de diminuer le budget de 1% par an, globalement,
et d'essayer d'atteindre sur toute la mandature.
Sur toute la mandature pour atteindre un objectif de 6 points. Parce que nous pensons que les finances publiques de la région, mais de toutes les collectivités territoriales comme de l'État, sont en crise et qu'il faut montrer l'exemple. Ça n'aurait pas des effets sur la fiscalité immédiat, mais c'est la seule condition pour y parvenir.
Et la deuxième?
La deuxième, c'est réorienter la culture sans diminuer le budget, en essayant de favoriser la culture populaire, c'est-à-dire la pratique et l'enseignement des arts, particulièrement d'aider les écoles de musique, d'aider les écoles de théâtre et d'art plastique, parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui dans les territoires sont très loin de tout ça, ou alors c'est trop cher pour leurs parents, parce que ça reste cher, et nous pensons que la culture populaire, la culture artistique n'est pas un luxe, et moi je suis très attaché à cette idée que la beauté est une des manières les plus fortes d'éviter la désespérance et peut-être la délinquance et la perte du lien social.
Vous êtes exprimé également sur les aides octroyées pour l'accueil des migrants, des réfugiés en particulier sur la région des Pays de la Loire. Vous vous êtes positionné contre cette aide aux réfugiés. Il n'y a pas ce geste humanitaire à faire selon vous aujourd'hui?
Je pense qu'il ne faut pas confondre charité et fausse charité. Que des particuliers ou des paroisses ou des associations prennent en charge l'accueil de réfugiés, pourquoi pas. Que l'État et la région le fassent massivement, que les préfets donnent des ordres aux maires des petites communes qui n'en peuvent déjà plus sur le plan budgétaire, nous sommes contre. D'autant plus que dans ces réfugiés, la plupart sont de faux réfugiés. Et que dans un second temps...
Faut-il faire la distinction entre les pauvres qui arrivent ici?
Eh bien écoutez, oui, parce que, comme l'avait dit Michel Rocard, la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Alors il avait rajouté, chacun doit en prendre sa part, la France doit en prendre sa part. Mais il n'avait pas dit à quel endroit. Et nous pensons qu'il faut développer la lutte contre la misère du monde sur place, et particulièrement en ce qui concerne les réfugiés de Syrie ou d'Irak, les aider à proximité de leur pays. Je pense que la Russie d'ailleurs va aider la solution de la crise en tuant Daesh, ce que les Occidentaux n'ont pas été capables de faire, et va permettre le retour de beaucoup de ces réfugiés. Quant aux faux réfugiés, eh bien nous, c'est notre position classique sur l'immigration, donc il n'y a rien de nouveau pour nous.
Pascal Gana, votre tête de liste sur la Loire-Atlantique, Samuel Potier, fait parler de lui un petit peu sur les réseaux sociaux actuellement, sur des anciens tweets qu'il a pu réaliser, comme par exemple cette lame de couteau ensanglantée que l'on voit avec en dessous l'inscription « L'Islam ». Comme si l'islam était meurtrier. Vous cautionnez ce type de tweet?
Moi, personnellement, je n'aurais pas fait cela. Il faut quand même savoir qu'il a repris cela, il ne l'a pas inventé. Il l'avait retweeté, comme on dit techniquement, le jour de la décapitation de ce malheureux chef d'entreprise à Saint-Martin-Falavier. Donc, ce jour-là, l'islam, effectivement, puisque c'était au nom de l'islam, était sanglant. Il faut quand même pas oublier que l'islam ne s'est implanté dans tous les territoires musulmans d'aujourd'hui que par la force et la violence. Si aujourd'hui Istanbul est musulmane, c'est parce que les Turcs l'ont conquis en massacrant les chrétiens.
Donc vous ne condamnez pas?
Je ne l'aurais pas fait, je le condamne dans la forme, parce que je pense que quand on est un responsable politique, il vaut mieux user de modération. C'est plus la forme que le fond en ce qui me concerne, effectivement.
Ma dernière question, un rassemblement au deuxième tour avec Bruno Retailleau, c'est possible?
Ben, écoutez, lors des élections départementales, Monsieur Retailleau a préféré que la gauche garde le département de Loire-Atlantique en disant « il n'y aura aucune alliance avec le Front National ». La porte est toujours ouverte sur un programme d'action minimale. La balle est dans son camp.
Merci d'avoir été avec nous, Pascal Gana. Je rappelle que vous êtes tête de liste du Front National pour les prochaines élections régionales.
Merci.
Je vous dis pas.
Et nous continuons aujourd'hui notre série d'invités de la rédaction spéciale élections régionales. Notre invité aujourd'hui est Gilles Denigaud, chef de file de la liste Choisir nos régions et réunifier la Bretagne. Gilles Denigaud, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté notre invitation. D'abord, quelques mots sur vous, ancien syndicaliste, responsable du syndicat des dockers sur Saint-Nazaire. Vous avez été également conseiller municipal à Saint-Nazaire. Autre étiquette que vous souhaitez mettre en avant?
Ben, j'ai été conseiller général, j'étais le premier élu écologiste au conseil général, seulement pendant 3 ans, voilà. Mais je n'avais pas de responsabilité dans l'exécutif, ce qui ne m'empêchait pas de donner de la voix sur de nombreux sujets.
Bretonnant et vert à la fois, c'est comme ça qu'on peut vous qualifier?
Oui, écologiste, j'ai quitté les Verts parce que ce parti ne correspondait plus dans ses pratiques politiques, pas sur les idées elles-mêmes, mais dans ses pratiques politiques et dans son fonctionnement à ce que je pense du fonctionnement démocratique et des avancées, hein, pour faire avancer les idées. J'ai quitté il y a un an et je me sens libre et très libre d'exprimer ce que je pense.
Gilles Denigaud, quelle est la ligne politique générale de votre liste « Choisir nos régions et réunifier la Bretagne » ?
Ben, notre liste s'est constituée parce que l'an dernier, il y a eu une réforme territoriale. J'ai envie de dire que c'est un scandale. On avait une chance historique en France, historique, de faire de vraies régions, de tracer des vrais territoires qui aient une cohérence territoriale, une cohérence en termes de projets de développement économique, écologique, culturel, et on ne l'a pas fait.
Parce ça s'est fait dans d'autres régions, mais pas dans les Pays
oui,
de la Loire.
Oui, on a fait fusionner les deux Normandies, ça paraissait très logique, mais là où il y avait des problèmes, c'est le cas de notre région avec la question de la Loire-Atlantique et de la Bretagne, on a balayé ça d'un revers de main pour satisfaire les intérêts de quelques barons locaux, que ce soit Jean-Marc Ayrault et Jacques Oxiatte. Et ça, c'est terrible, parce qu'on défend ces questions-là avant l'intérêt des territoires et de leurs habitants. Donc, ou bien je me trouvais, moi qui pensais être en retraite politique, ou bien je me trouvais dans la résignation et le fatalisme une fois de plus, ou bien je me trouvais dans l'indignation. Donc, ça a été pour moi une indignation personnelle qui s'est transformée en indignation collective, et on a créé une liste rassemblant les quatre mouvements bretons qui vont, j'ai envie de dire, du centre droit à la gauche de la gauche. C'est quand même quelque chose d'exceptionnel.
Est-ce à dire que votre priorité, la seule priorité de ces élections régionales, c'est leur attachement de la Loire-Atlantique à la région Bretagne?
Non, surtout pas. Notre priorité, c'est de s'adresser aux habitants des cinq départements des Pays de Loire, parce que c'est une réalité, nous vivons dans cette région. Elle a été imposée parce que la Bretagne a été démantelée il y a plus de 40 ans, on l'oublie. Et aujourd'hui, nous avons envie de leur offrir le droit de choisir, parce que c'est la question démocratique l'an dernier qui a été bafouée quand ils ont fait cette réforme territoriale. Là où il y a un souci, il faut faire du débat et ne pas avoir peur d'interpeller, de solliciter les habitants pour qu'ils s'expriment sur le choix qu'ils veulent faire pour la région qu'ils veulent construire. Une région Val-de-Loire, avec l'axe Le Mans-Angers-Tours, elle a une cohérence si on l'explique aux habitants.
Donc si vous êtes élu, vous proposez un référendum dans chaque département pour savoir où est-ce que le département souhaite aller.
Un débat crédible et un référendum pour que nous ayons des régions qui soient pertinentes, qui aient une cohérence économique, je l'ai dit. Et ça, ça passe effectivement par une démocratie bafouée. On demande aux Vendéens ce qu'ils veulent faire. On demande aux habitants de la Loire-Atlantique s'ils veulent revenir dans une Bretagne où ils ont été séparés il y a presque 50 ans.
Mais si je vous comprends bien, vous demandez à être élu à la région des Pays de la Loire pour démanteler cette région.
Bah oui, parce qu'on a démantelé la Bretagne, on l'oublie, on veut remodeler, refonder, démanteler.
Ça date de quelques décennies quand même tout ça, non?
Oui, mais qu'importe, les faits sont têtus. Quand on a une région des Pays de la Loire qui tourne le dos à la mer parce qu'elle est obligée de par sa configuration géographique de se diriger vers la terre, on pénalise la Bretagne administrative à quatre départements qui est amputée de la Loire-Atlantique, là où le premier port de la Bretagne, c'est Montoire de Bretagne. On l'oublie, il est en Loire-Atlantique. Il n'y a pas de cohérence avec le périmètre breton, alors que si on réunifie la Bretagne, il y a une irrigation économique, une dynamique qui se crée et qui arrose immédiatement tous les départements périphériques. C'est ça qui n'est pas vu. On ne comprend pas dans notre pays, et certains considèrent que c'est secondaire, que la manière dont on fait les régions, c'est ce qui crée des dynamiques.
Gilles Denigaud, vous êtes chef de file de la liste Choisir nos régions et réunifier la Bretagne. Dois-je vous interroger sur les compétences de la région à partir du moment où vous voulez la démanteler? Je vais le faire quand même. Sur l'économie et l'emploi, quelles sont vos propositions?
Bah, écoutez, sur l'économie et l'emploi, on peut faire mieux que ce qu'on fait dans cette région des Pays de Loire, c'est sûr qu'on peut faire mieux. C'est un fiasco en ce qui concerne la question de la formation professionnelle qui a un gros budget et de l'apprentissage. On n'a pas fait reculer le chômage. On a résolu des problèmes au jour le jour, mais on n'a pas eu une politique d'emploi de manière cohérente. C'est vrai que ce territoire est pénalisant. Et si nous avions véritablement ce référendum que nous demandons pour réunifier la Bretagne parce qu'il y a dans la réforme territoriale un droit d'option, c'est une petite lucarne, une petite fenêtre, un minuscule Velux qui a été laissé. Il faut se battre pour ce référendum parce que là, en termes économiques, je peux vous dire que en tournant véritablement la Bretagne vers la mer, avec son potentiel industriel, avec les énergies marines renouvelables, avec tout ce que nous pourrions faire avec une région cohérente et une assemblée de Bretagne qui aurait réuni les cinq départements dans le Conseil régional, ça c'est également une réforme, avec des pouvoirs supplémentaires aux régions qui n'ont pas été donnés dans la réforme dans l'an dernier. Ces fusions de régions qui ont été faites l'an dernier ne donnent pas de pouvoir aux régions. Enfin quand même, la région des Pays de la Loire, c'est un budget à un peu plus d'1 milliard, 1,5 milliard d'euros, la région Bretagne aussi. Ça fait 3 milliards à deux régions. Regardez la Catalogne avec ses 50 milliards. Regardez l'Écosse avec ses 40 milliards. C'est du pipeau. On parle toujours de l'Allemagne, on n'est pas capable de regarder les capacités et les pouvoirs des Landes en Allemagne.
Sur l'éducation, les lycées en particulier, vos propositions ?
Mais écoutez, je pense qu'il faut réfléchir sur une régionalisation de ce système éducatif. Ça marche pas. Ça marche pas aujourd'hui en Pays de Loire parce qu'il y a aussi une concurrence universitaire en ce qui concerne Rennes et Nantes.
Qu'est-ce qui vous dit que ça ne marche pas ?
Moi, ce qui me dit que ça marche pas, c'est que si on avait une Bretagne réunifiée et véritablement des régions comme nous les dessinons, nous aurions pas à faire des doublons en ce qui concerne l'éducation. Donc ça, c'est quand même quelque chose de vital et de très important. Donc nous, on veut pas se battre comme, parce que toutes les autres listes, j'ai envie de vous dire ça, toutes, sans exception, ce sont des listes centralisatrices. C'est le pouvoir jacobin, ils sont soit pour le statu quo, soit pour le Grand Ouest. On est la seule liste à dire que cette réforme est un scandale et qu'il faut la revoir de fond en comble. Elle est en dessous de ce que prévoyait Édouard Balladur, et pourtant Balladur, politiquement, c'est pas ma tasse de thé. Mmh. Mais elle est en dessous.
Et sur les transports, les propositions ?
Bah sur les transports, on voit bien, moi j'habite à Saint-Nazaire. Mmh. Quand je dois me rendre à Quimper, c'est je passe un temps fou.
Donc mais qu'est-ce que je vais faire à Quimper ?
Donc mais non, mais c'est ça le problème, c'est que on a un système de transport ferroviaire qui est polycentrique et tout est vers Paris.
Paris.
Et ça colle pas. Mmh. On n'est pas capable de faire un maillage territorial pour en termes de transport ferroviaire, en termes de transport doux, j'ai envie de dire, en termes de transport écologique.
Mais ça coûte tout cela, vous le savez, vous mettez des cars, ça coûte moins cher en général.
Oui, ça coûte moins cher, mais on les met ou on les met pas. Hein. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut que la Bretagne réunifiée et les autres régions qui auront choisi leur périmètre, que ce soit le Val de Loire reconnu à l'UNESCO et qui a une signification vue de loin et vue de l'extérieur, eh bien, c'est à ces régions, à ce pouvoir régional, de décider de leurs infrastructures, qu'elles soient terrestres, qu'elles soient ferroviaires, qu'elles soient aéroportuaires.
Alors justement,
et ça, ils ne l'ont pas. Ils ne l'ont pas. On a fait des régions dans la réforme. On a fait des régions dans la réforme qui sont sous la tutelle de l'État. C'est du pipeau, le pouvoir des régions. C'est du vent.
Gilles Donigo, justement, sur cette question de l'aéroport, vous êtes un opposant notoire de Notre-Dame-des-Landes. C'est-à-dire que votre liste aussi, choisir nos régions et réunifier la Bretagne, est aussi opposée à Notre-Dame-des-Landes?
Non, écoutez, on n'en a pas fait notre fonds de commerce principal. Je vous ai expliqué que
vous êtes pour ou contre la liste?
Moi, je suis contre.
Personnellement.
Évidemment.
Mais la liste.
J'ai fait une grève de la faim de près d'un mois.
Oui, oui.
Mais j'ai pas besoin de prendre un badge. Et sur la liste, aller comme dans la société, les trois quarts ou un peu plus de ceux qui sont dessus, qui sont opposés à cet aéroport, et les autres voient bien qu'il y a un problème démocratique qui est posé, voient bien qu'il faut réfléchir, voient bien qu'il faut peut-être réfléchir sur un schéma de cohérence de tous ces petits aéroports qui ne servent pas, revoir cette question-là. Mmh. La question parisienne n'est pas une réponse à tout, de prendre l'avion à Paris, mais la question de Notre-Dame-des-Landes sur une zone humide est une réponse à rien. Vous voyez ce que je veux dire ?
Ma toute dernière question, et en très peu de temps, Gilles Donigo, que répondez-vous à ceux et celles qui disent, bon, la réunification à la région Bretagne, c'est revenir dans le passé, ce n'est pas se projeter vers l'avenir. Qu'est-ce que vous répondez à ça ?
Ce sont des imbéciles. Ils n'ont aucune réflexion intellectuelle. Et c'est un scandale de penser ça. Ils pensent que l'unicité de la République crée des citoyens, alors que c'est la diversité qui crée une richesse. Et la Bretagne, c'est un territoire d'une diversité très très riche. Il faut écouter les Bretons car ils ne lâcheront jamais la réunification. Je suis le fer de lance de ce discours qui critique le déni de démocratie et qui veut que nous sollicitions les habitants, et y compris pour réunifier la Bretagne.
Merci Gilles Donigo d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Je rappelle que vous êtes le chef de file de la liste Choisir nos régions et réunifier la Bretagne.
On se retrouve dès lundi dans Je vous dis pas, et comme chaque lundi, c'est spécial musique en interview, la chanteuse et guitariste nantaise Manu pour la sortie de son troisième album intitulé La Vérité. À lundi, bon week-end, bye bye.
Je vous dis pas, votre magazine d'information locale.